Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Cancer, osez en parler, le podcast de la Ligue contre le cancer Comité 13. Aujourd'hui, nous recevons Gilles Charvin, qui est psycho-oncologue, et avec lui, nous allons aborder un sujet essentiel quand la maladie fait irruption dans nos vies, l'annonce à ses proches. Conjoints, enfants, collègues de travail, c'est sensible, voilà pourquoi vos conseils, cher Gilles, sont précieux aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Alors, en parler pourquoi ? Pour se sentir entouré, pour se rassurer, rassurer les autres, pour apaiser les inquiétudes. Il y a une autre option, non négligeable aussi, qui n'est pas à l'ordre du jour, mais qui est celle de faire le choix de ne pas en parler. Ça arrive aussi parfois. Mais alors, pour celles et ceux qui le souhaitent et qui décident de se confier, comment en parler ? Est-ce qu'il y a une façon différente de le faire selon qu'on s'adresse à la personne qui partage notre vie, à son enfant, à son patron ou collègue de travail ?
Oui, donc effectivement, les différences vont être sensibles selon à qui on s'adresse. Mais en premier lieu, la décision d'un proche, le choix d'un proche qui va nous accompagner durant la maladie est une phase essentielle et une décision importante dans la mesure où ce rôle que l'on attend du proche va être prolongé dans le temps en fonction des étapes, des phases, et va représenter pour ce proche informé une nécessité d'être informé le plus complètement possible. Ce qui veut dire que l'annonce au proche, faite par le patient, va se doubler nécessairement d'une annonce faite par le médecin. Pourquoi ? Parce que l'information doit être la plus objective et la plus complète possible. Donc on a retenu, comme dans le principe, dans le protocole d'annonce, une association du proche auprès du médecin dès la deuxième ou troisième consultation. Ce qui permet au proche d'exprimer les questions que cela soulève pour lui et d'avoir une information la plus complète.
Parce qu'en fait, pour le malade, il y a aussi une forme de protection vis-à-vis de leurs proches. Finalement, ils ne veulent pas les inquiéter non plus. Donc peut-être que parfois, ils aseptisent un petit peu les informations, ils ne disent pas tout.
Je crois qu'effectivement, la nécessité de protéger son proche, c'est se protéger soi-même. Donc on a très souvent cette volonté d'économie d'information de la part du patient qui doit être au fil du temps corrigée.
Il y a donc une façon différente, on le disait, de l'annoncer à son conjoint ou à son collègue de travail. On ne dit pas les mêmes choses selon qu'il y ait une réelle proximité. Et ses enfants, on va les préserver aussi, bien sûr. On ne leur dit pas la même chose non plus.
La notion de proche va recouvrir certainement des gens qui sont réellement proches. Autrement dit, c'est souvent quand même le conjoint ou quelqu'un de la famille, mais on ne peut pas considérer comme proches les collègues de travail ou des amis plus lointains, sauf de les élire, quand on est seul, comme un proche accompagnant.
On va s'attarder un petit peu sur l'annonce aux enfants, parce que c'est un des points les plus touchy, on le disait. À votre avis, comment faire ?
Je crois que c'est souvent une question qui, par contre, est abordée par les patients qui disent « comment informer à mes enfants ?» Donc, on a l'habitude de répondre à cette question. Manifestement, de l'expérience, il nous semble que l'annonce aux enfants doit être ponctuelle, je veux dire ramassée à l'état des connaissances actuelles et pour des étapes très courtes. Autrement dit, le dépistage, par exemple, les examens que l'on va devoir faire, les absences que ça va occasionner du patient par rapport à la famille, les résultats qui seront donnés dans 15 jours ou un mois, de manière à avoir chaque fois des séquences assez courtes.
On ne se projette pas avec les enfants, c'est ça ?
On ne se projette pas avec les enfants et on ne les laisse pas dans un imaginaire qu'ils vont combler avec des connaissances très approximatives ou des comparaisons avec d'autres sujets qu'ils ont dû aborder ou avec des connaissances qu'ils ont eues sur le sujet. Donc on a ce besoin de faire des scansions dans l'annonce, de manière à ce qu'ils puissent à la fois comprendre qu'il y a à chaque fois un début et une fin à chaque étape, pour éviter de les projeter dans quelque chose qui est à la fois long et pour lequel les informations sont approximatives, ce qui introduira le doute chez eux et inévitablement une mise en marche d'un imaginaire que l'on ne souhaite pas.
Est-ce qu'on dit les mots ? Est-ce qu'on dit le mot cancer à un enfant ?
Je crois que c'est très important aujourd'hui d'éviter de tourner autour de ce terme qui autant a terrorisé les générations d'avant, autant aujourd'hui est à la fois largement prononcé et n'est pas sujet à une caution aussi fatale que ce qui se présentait avant. Donc aujourd'hui, on peut être malade du cancer, on peut guérir du cancer, on peut être malade longtemps et avoir une maladie chronique à travers le cancer, mais il n'y a aucun intérêt à faire l'économie du mot qui, sinon, risque d'être prononcé par un tiers avec les dégâts que ça peut faire si jamais on n'est pas dans la confiance. Je crois qu'il faut bien percevoir l'idée que les enfants se rendent très vite compte si on leur dit ou pas la vérité. Ce qui veut dire aussi que ça leur permet, enfin ça permet souvent aux patients, d'impliquer un peu les enfants dans cette annonce. Les impliquer, c'est-à-dire finalement leur donner un rôle d'accompagnant également, y compris sur des choses extrêmement simples. Je vais être fatigué pendant quelques temps, tu pourrais peut-être m'aider à faire ci ou ça, ou aller faire trois courses à l'extérieur. C'est-à-dire que finalement, ça les sort de l'embarras de que faire face aux malades. Et ben voilà, on leur donne une tâche à faire et au moins ils sont débarrassés de ça. Alors, c'est vrai que si on n'a pas cet égard, on a souvent des réactions assez étonnantes de la part d'enfants qui soit supportent assez mal et deviennent mutiques ou agressifs. Ou, bon, on peut avoir des cas de figure assez... Je crois que ça mérite vraiment de prendre soin d'eux. Surtout que c'est aussi une période de rapprochement. Traverser la maladie en famille est une chose qui va souder les liens. Donc il ne faut pas rater l'occasion de...
Autre point à aborder de la part des proches, ça nous est tous arrivé, enfin, malheureusement presque tous, d'avoir à accompagner quelqu'un, à soutenir une personne malade. Parfois, on en fait trop. Ça peut être générateur de stress finalement, plus que de soutien. Il y a des mots, est-ce que ce côté où on va être comme ça en disant « t'es un combattant, t'es un warrior, tu vas gagner, tu vas... » Est-ce que c'est bien ? Ou est-ce qu'il faut peut-être le dire au début et puis après passer à autre chose ? Parce que j'ai l'impression que parfois, en faire trop, c'est pas la solution non plus pour la personne malade.
C'est vrai que naturellement, je dirais, la position que l'on peut avoir en recevant une telle annonce est souvent une position de défense. Autrement dit, on n'évite pas les mécanismes de en faire trop, d'infantiliser, de vouloir se mêler très étroitement des relations entre l'équipe soignante, le médecin et le patient, comme si on faisait un peu l'intermédiaire de ça, comme si on... ou bien d'introduire des comparaisons en disant « mais moi aussi », ou puis quelqu'un de la famille a eu ça, et puis t'inquiète pas, il s'en est sorti. Voilà. Espèce de démonstration qui n'a pas de sens dans la mesure où le patient finalement reçoit assez mal, même s'il comprend la fragilité de son proche, parce qu'on connaît ses proches. Donc... il n'est pas étonné de cette réaction, mais ce n'est pas forcément la mieux attendue ou la plus judicieuse.
Donc vous conseillez quoi, vous ? Juste être présent pour la personne et finalement être attentif à ses attentes et pas chercher à faire de la psycho, justement, parce qu'on n'est pas psy.
Oui, ouais, effectivement. Je crois que oui, être attentif à ses attentes, c'est une bonne idée, même si ses attentes sont changeantes, même si les questionnements qui traversent le patient à travers cette maladie va remettre en question souvent les rapports relationnels déjà établis, comme si le patient avait besoin de revisiter un peu un questionnement sur le pourquoi ça lui tombe dessus. Donc, finalement, ce proche qui veut s'instaurer proche est souvent malmené, on pourrait dire, remis en question par le fait qu'il est dans cette configuration familiale dans laquelle le patient se pose beaucoup de questions, y compris sur son passé. Donc, manifestement, supporter cette remise en question n'est pas simple. Donc, être à l'écoute des demandes peut-être contradictoires des patients est une bonne chose. Et puis peut-être proposer, puisque certainement c'est la seule personne dans l'entourage proche du patient qui va pouvoir le faire, de tenter de continuer à vivre malgré ce. Autrement dit, de faire des propositions qui sont celles que l'on vivait avant, de renouer avec des sorties, des balades, des projets. Je crois que ça c'est très important, les projets, parce que tout tombe à l'eau lors de cette annonce, alors qu'en fait on voit assez bien que dans la dynamique du traitement, on va avoir soit des phases de répit, soit des fins de traitement, qui fait que ça permet de se projeter dans des séjours que l'on avait à faire ou des voyages en famille qui seront certainement plus compliqués, mais il faut les tenter quand même, y compris les sorties, même s'il faut faire demi-tour. Peut-être que ça vaut la peine de réserver des endroits pour aller se balader. Voilà. Et ça, manifestement, il y a... que le proche, je dirais, qui peut maintenir ce, ce climat de vie ou cette perspective de continuer à avoir des objectifs malgré ce.
Alors j'en profite pour rappeler que la Ligue contre le cancer au niveau national a mis en place un numéro vert pour répondre à toutes les questions liées à la maladie et avoir une oreille attentive, c'est le 0800 940 039. Et très concrètement, comme ici à la Maison Bien-être, la Ligue contre le cancer propose du soutien psychologique pour les malades, mais aussi pour les aidants. On n'a pas abordé cette question là aussi. Est-ce que vous conseilleriez aux proches, aux aidants, un suivi psychologique à l'annonce de la maladie?
Je crois que, comme on vient d'évoquer la difficulté de se trouver un rôle, une place, une fonction auprès du malade, selon les difficultés qu'il rencontre et peut-être la remise en question même du patient, je pense qu'ils sont souvent déroutés. Quand ils viennent consulter, ce qui arrive fréquemment à la Ligue contre le cancer, ils viennent exposer une situation bloquée. Donc ça mérite de les aider à prendre un peu de recul et à comprendre quelle pourrait être soit leur place, soit leur rôle, soit leur fonction à long terme. Donc ce n'est pas un travail inutile, je dirais que ça débloque souvent quelques petites choses sans avoir à se revoir très fréquemment.
Alors pour ceux qui auraient encore des réticences dans le fait d'aller voir un psychologue, soit de pousser cette porte de la Maison Bien-être, quels conseils on peut leur donner pour les inciter à sauter le pas? Très concrètement, comment ça se passe? Ils s'inscrivent, ils peuvent vous rencontrer, vous et d'autres?
Alors voilà, effectivement, ici il y a une dynamique un peu d'ensemble, c'est-à-dire qu'on a envie de faire découvrir aux patients ou aux proches la dynamique qui est mise en place ici, à la fois d'activités multiples, de manière à créer du lien entre les patients ou entre les proches. Je crois qu'ils sont souvent très contents, après une première venue, d'avoir eu des contacts, de pouvoir parler assez simplement avec d'autres personnes impliquées ou concernées par la maladie. En parler est certainement une bonne façon d'apaiser au moins le sentiment d'être de solitude que l'on rencontre lorsqu'on est dans la préoccupation de cette maladie pour soi-même ou pour un tiers.
Et pour celles et ceux qui nous écoutent, on en parlait au début et qui auraient fait le choix de ne pas en parler. Est-ce que vous avez, pareil, un conseil à donner? Est-ce que, évidemment, on respecte le choix de chacun, mais est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire éventuellement?
Oui, je crois qu'on n'est pas égaux face à la maladie et notre caractère l'emporte quoi qu'il en soit. Donc certains patients, y compris avec leurs proches, ont plutôt un souhait de repli autour de la maladie, de préserver une espèce d'intimité qui leur permet de ne pas faire écho de la maladie à l'extérieur et construisent un peu des barrières dans lesquelles ils se sécurisent un peu et pourquoi pas. Je pense que ce n'est pas indispensable d'aller en parler si l'apaisement vient de fermer les portes et les fenêtres à une relative étanchéité de l'extérieur.
Donc on en revient toujours au fait de se protéger soi-même, c'est quand même
exactement,
essentiel aussi.
Exactement, et puis c'est cette fameuse idée que être plaignant de façon durable est toujours quelque chose de compliqué pour tous, dans la mesure où on n'occupe pas impunément et de façon pérenne le fauteuil de plaignant sans que ça soit insupportable aux autres. On a envie de dire nous-mêmes qu'on a souffert, on est déjà passé par des épreuves. On compatit ou on a de l'empathie que si on peut identifier des situations que l'on a déjà connues.
Donc voilà, on peut faire aussi le choix de ne pas en parler à ses proches, ce qui n'empêche pas de pousser la porte de la Maison Bien-être et de venir à la rencontre de psychologues et de profiter des activités proposées ici, que ce soit du sport, de l'esthétique ou simplement voilà, d'avoir des oreilles attentives. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Gilles Charvin, merci pour ces conseils.
Avec plaisir.
Précieux. Pour terminer, je vous conseille vivement de vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous, laissez-nous des étoiles et des commentaires et partagez-le autour de vous. Parlez-en, cela pourrait aider au moins une personne, c'est sûr. Merci beaucoup, à très vite.
Bonjour, c'est Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à chacun d'entre vous d'avoir écouté ce podcast réalisé par la Ligue régionale dans le cadre du plan cancer de la région Sud. Merci à vous.